Je souhaite débuter ma communication intitulée « La temporalité du détail apaisant ». Et « apaisant » est la traduction de « Friedensstiftend ».« Friedensstiftend », c'est peut-être aussi pacifiant, mais « La temporalité du détail apaisant » par une citation qui ouvre également son résumé. Elle est extraite du film « Der Himmel über Berlin, les ailes du désir » dont Peter Handke et Wim Wenders ont coécrit le script. On y entend penser au maire qui consulte dans les années 80 un livre d'August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts, à la Staatsbibliothek de Berlin, située sur la friche de la Potsdamer Platz. Je cite: Meine Helden sind nicht mehr die Krieger und Könige, sondern die Dinge des Friedens, eins so gut wie das andere. Die trocknenden Zwiebeln so gut wie der Holzstamm, der durch den Morast führt. Aber noch niemandem ist es gelungen, ein Epos des Friedens anzustimmen. Was ist denn am Frieden, dass er nicht auf die Dauer begeistert und dass sich von ihm kaum erzählen lässt? Alors, en français, mes héros ne sont plus les guerriers et les rois, mais les choses de la paix, toutes égales les unes aux autres. Les oignons qui sèchent, égaux à la racine d'arbres qui traversent le marais. Mais personne n'a encore réussi à chanter une épopée de la paix. Qu'est-ce qui fait que la paix ne suscite pas d'inspiration durable et qu'elle est pratiquement impossible à compter? Cette question, qu'est-ce qui fait que la paix ne suscite pas d'inspiration durable, est une question d'Homère, mais certainement aussi de Handke, qui, pourrait-on avancer, tente d'écrire une épopée de la paix à partir de la fin des années 70 et de sa nouvelle Long Retour, Langsamer Heimkehr, de 79. Or, puisque Homère pose cette question, même si c'est uniquement dans la fiction cinématographique, et que nous nous trouvons tous, pour reprendre Friedrich Kittler, dans le sillage de son Odyssée, en Europe du moins, c'est aussi à nous qu'il la pose, nous qui sommes sans doute trop gâtés par une longue paix. Cette question s'adresse encore plus, à mon avis, à la critique littéraire et aux sciences humaines et sociales qui, si je ne m'abuse, ne s'en sont guère souciés ces dernières années. En tout état de cause, la guerre leur semble, ou plutôt nous semble, bien plus intéressante que la paix. On se heurte de toutes parts à la guerre, par exemple dans les textes de deux stars des sciences humaines et sociales, à savoir Bruno Latour et Friedrich Kittler, au moins à la guerre comme métaphore. Latour affirme se trouver dans une guerre des sciences, dont il fait le récit depuis ses, je cite, « tranchées dans l'espoir de Pandore ». La guerre est ici la métaphore martiale de la manière dont s'affrontent et s'imposent des thèses scientifiques. Kittler tisse un lien fondamental entre les technologies des médias et la guerre, car les innovations les plus fondamentales dans ce secteur médiatique, comme le télégraphe, le radio, l'ordinateur, découlent directement de la recherche militaire, des machines de la guerre. C'est pourquoi, et là réside sa grande hypothèse, la guerre a non seulement fait son entrée dans notre quotidien fié à la technique, mais les technologies des médias préparent et adaptent la totalité de notre capital de perception à la guerre. La guerre considérée ici comme a priori historique. On ne s'abaissera pas à dénigrer Latour, fils d'un vigneron bourguignon, et Kittler, scientifiquement socialisé dans la paisible ville de Fribourg en Brisgau, comme des professeurs saturés qui tentent de manière irresponsable de donner plus de dureté et de piquant à leur pré carré. En effet, l'argument de Latour est uniquement qu'il pourrait être plus avisé de se penser en état de guerre plutôt que de s'imaginer qu'il n'en existe aucune et que nous nous dirigeons vers une époque de plus en plus pacifique, car nous serions alors contraints d'admettre que la paix n'existe pas en soi, mais qu'elle demande toujours à être négociée et produite collectivement. Quant à la théorie des technologies médiatiques de Kittler, on peut parfaitement la qualifier de science critique de la guerre, ainsi que l'a fait Nicolaus Wickmann. Je ne suis pas totalement certain, toutefois, que cette spécification s'applique encore au texte de leurs disciples. War is sexy, paix est sexy, comme le chantaient les Dead Kennedy sur Bedtime for Democracy en 86. Nous avons laissé loin derrière nous l'époque du sentiment d'une menace nucléaire imminente, les années 80, pendant lesquelles la littérature était diffusée comme une promotion et une étude scientifique de la paix, et qui a donné lieu à la publication, notamment en RDA, de quelques sommes scientifiques sur la paix et la littérature. Literatur heute muss Friedensforschung sein, l'appel fameux de Christa Wolf de 83. Il existe bien entendu des exceptions louables en sciences humaines et sociales, par exemple le Zentrum für Friedensforschung und Friedensbildung de l'Université de Klagenfurt, dans la Carinthie natale de Handke, ou l'Otto Suhr Institut de l'Université libre de Berlin, où le chercheur sur la paix, Theodor Ebert, a enseigné entre 1970 et 2002 à la chaire de politique intérieure et de comparaison systémique. Ce qui nous amène à Peter Handke et au thème de ma communication. Les chercheurs sur Handke connaissent bien le rôle important de la paix et de la guerre dans l'œuvre de Handke. Mais ils ignorent, pour autant que je sache, qu'un célèbre chercheur sur la paix, Theodor Ebert, recommande les textes de Handke à ses collègues. Dans le second volume de son ouvrage « Pazifismus, Grundsätze und Erfahrung für das 21. Jahrhundert »« Pacifisme, Principes et Expérience pour le 21e siècle » intitulé « Der Kosovo-Konflikt aus pazifistischer Sicht » le conflit du Kosovo dans la perspective pacifiste, paru en 2001, Ebert consacre un chapitre entier à Handke. Sous le titre « La méthode poétique » ou « Lire les récits de voyage en Yougoslavie de Peter Handke comme des textes pacifiques », Ebert commence par expliquer ce qu'il entend par la méthode poétique de Handke. Elle se distingue par le fait que Handke ne cherche pas à écrire, je cite, « dans le jargon des politiciens et idéologues », mais tente de rendre visible ce qui existe à côté des points chauds de la guerre. La méthode poétique de Handke ne place ni thèse ni antithèse, nous dit Ebert, je cite, « elle cherche, elle suppose, formule à titre expérimental ce qui réconcilie ». Ebert cite en introduction des propos de Handke, extraits d'un entretien que l'écrivain a accordé en 1996 à Willy Winkler pour le magazine Die Zeit. Winkler demande à Handke si ce dernier espère que son récit de voyage, c'est-à-dire son texte en voyage hivernal, Winterliche Reise, pourra contribuer à améliorer la situation en ex-Yougoslavie. Handke répond, malgré les réactions en majorité hostiles ou haineuses, il me semble que ce texte est pris pour ce qu'il est, un texte de paix. Il faut élucider cette histoire de Srebrenica. Mais il faut montrer en parallèle quelles seraient les possibilités d'une réconciliation ou de retrouvailles, non pas en enfonçant toujours le même clou, mais en retrouvant les détails communs. Es müsse gezeigt werden, was die Möglichkeiten einer Versöhnung oder eines Sich-Wiederfindens wären, und zwar nicht, indem man wieder in dieselben Kerben schlägt, sondern indem man die gemeinsamen Details wiederfindet. Formuler à titre expérimental ce qui réconcilie, retrouver les détails communs, voilà qui décrit provisoirement la méthode poétique de Handke que Ebert, nous l'avons dit, recommande à ses collègues chercheurs. Je cite, sur cette méthode, il peut apprendre des choses aux chercheurs sur la paix que nous sommes, parce que nous n'arriverons sans doute pas à écrire des textes permettant de comprendre la paix si nous nous contentons d'appliquer les méthodes de présentation et d'analyse bien établies. Nos textes ne font pas bouger les lignes, ne dispensent aucune réconciliation. Fin de la citation. L'objectif est de rédiger des textes scientifiques sur la paix en y mêlant des outils poétiques. Pourquoi, cela étant, des chercheurs sur la paix auraient-ils besoin des textes de Handke? Qu'en est-il de ces textes et des détails communs? Ebert se réfère essentiellement à ses traversées de la Yougoslavie en temps de guerre, c'est-à-dire au voyage hivernal, ainsi qu'à ses notes rétrospectives dans Untertränen fragend. Mais il faut élargir ce corpus, et ce, à la totalité de l'œuvre handkienne, ainsi que l'a déjà rappelé Leopold Federmeier parmi d'autres. Dans son ouvrage The Representation of War in German Literature from 1800 to the Present, Elizabeth Krummer a clairement fait ressortir le problème qui interpelle Handke. Elle écrit, je cite, Handke semble suggérer qu'un texte de paix est radicalement différent d'un texte qui critique la guerre. Et plus loin, pour Handke, la littérature sur la guerre risque de rester engluée dans cette même histoire de violence qu'elle cherche à dénoncer. Les récits de guerre sont rapidement associés à des récits de revanche et s'exposent à être happés dans un cercle vicieux de violence et de contre-violence. Les écrits de Handke indiquent que, même dans le meilleur des cas, les récits de guerre ne peuvent pas mener à la paix. Dans le pire des cas, ils sont même une forme de pornographie. Fin de la citation. Nous avons donc affaire ici à un problème bien connu de la littérature dite engagée, qui nous ramène aussi au cœur de l'un des thèmes de notre colloque « Intervenir dans son temps ». Dans son texte sur l'engagement, Theodor W. Adorno a déjà parfaitement analysé l'essentiel de la littérature engagée en écrivant qu'un auteur engagé s'attribue trop facilement, je cite, « toutes les valeurs nobles pour les traiter grossièrement ». Le génocide devenant une part du patrimoine de la littérature engagée, il est plus facile de jouer sa partie dans la culture qui a accouché de ce meurtre. Fin de la citation. Alors, indem noch der Völkermord in engagierter Literatur zum Kulturbesitz wird, fällt es leichter, weiter mitzuspielen in der Kultur, die den Mord gebar. Pour sa part, la littérature de Handke tente en quelque de sorte de repenser l'écriture et revendique l'altérité de la littérature, le devenir autre de la langue, pour reprendre les mots de Gilles Deleuze. Le passage si souvent cité du voyage hivernal interroge. Aber ist es zuletzt nicht unverantwortlich, mit den kleinen Leiden in Serbien daherzukommen, dem bisschen Frieren dort, dem bisschen Einsamkeit, mit Nebensächlichkeiten wie Schneeflocken, Mützen, Butterrahmkäse, während jenseits der Grenze das große Leid herrscht? Ja, so habe auch ich mich oft Satz für Satz gefragt, ob ein derartiges Aufschreiben nicht obszön ist, sogar verpönt, verboten gehört. Zuletzt freilich dachte ich jedes Mal, aber darum geht es nicht. Meine Arbeit ist eine andere. Die bösen Fakten festhalten, schon recht. Für einen Frieden jedoch braucht es noch anderes, was nicht weniger ist als die Fakten. Kommst du jetzt mit dem Poetischen? Ja, wenn dieses als das gerade Gegenteil verstanden wird vom Nebulösen. Oder sag statt das Poetische besser das Verbindende, das Umfassende. Den Anstoß zum gemeinsamen Erinnern als der einzigen Versöhnungsmöglichkeit. Fin de la citation. En français. Mais n'est-il pas en définitive inadmissible d'étaler les petites souffrances de la Serbie, le petit peu de froid, le petit peu de solitude, avec des détails sans importance comme des flocons de neige, un bonnet, un bout de fromage, alors que de l'autre côté de la frontière règne la grande souffrance? Oui, souvent, je me suis demandé, phrase après phrase, si cette écriture n'avait pas quelque chose d'obscène, si elle ne devait pas être réprouvée, voire proscrite. Mais finalement, à chaque fois, je pensais, il ne s'agit pas de ça. Mon travail est autre. Consigner les événements fâcheux, oui. Mais la paix a besoin d'autres choses qui ne pèsent pas moins lourd que les faits. Vas-tu me parler de poétique? Oui, s'il est entendu comme l'exact contraire du nébuleux. Ou, au lieu de poétique, disons ce qui relie, ce qui englobe. L'impulsion du souvenir commun comme unique voie de réconciliation. La poétologie de Handke touche au fondamental. Les écrivains, écrit-il dans l'histoire du crayon, Die Geschichte des Bleistifts, ne doivent pas être la douleur, mais les médecins. Nicht der Schmerz, sondern die Ärzte sein. Il faut, par conséquent, parler de façon aussi enthousiaste qu'enthousiasmante des choses de la paix, des oignons qui sèchent, des racines d'arbres qui traversent le marais, des sacs de cellophane embueux à l'intérieur, des nids de pâtes d'un autre jaune, die andersgelbe Nudelnestern. Handke confère ici à la littérature un rôle spécifique émanant de son histoire et de sa tradition. Elle est un troisième élément, je voudrais dire ici, parce que, alors, un troisième élément, ni consolation, Trostpflaster, ni chant de la destruction, Begleitgesang der Zerstörung, comme on peut le lire dans les entretiens de Peter Handke et Herbert Gamper, publiés dans Espace intermédiaire, Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen. Also, die Literatur soll weder Trostpflaster noch Begleitgesang der Zerstörung sein, sondern etwas Drittes. La restitution et l'interprétation des événements fâcheux sont laissés à d'autres formes textuelles et médias. La littérature doit, pour sa part, colmater la fissure dans le bestiaire, den Riss im Bestiarium stopfen. Pour colmater le bestiaire, il faut compter sur les Nebensachen. Les choses de moindre importance, ou à côté, voisinées, the overlooked, et sur les détails. Et on peut dire que les Nebensachen sont presque toujours des détails, et des détails souvent d'un paysage en paix, des lieux en paix, de la nature en paix. Donc il faut compter sur les Nebensachen ou sur les détails communs retrouvés, qui sont susceptibles d'apporter la paix. Les chercheurs sur Handke ne se sont pratiquement pas, jusqu'à présent et jusqu'à ce colloque, intéressés aux détails chez Handke. Exception faite, l'année dernière, de Judith Sarfati-Lanté, dans son beau texte « La figure du peintre dans l'œuvre de Peter Handke et Claude Simon, usage heuristique du détail ». Les lecteurs de Handke connaissent bien ces détails, nous aussi déjà maintenant. Outre les oignons et les nids de pâtes, en font également partie les flaques dans lesquelles se reflète le ciel, le soleil qui perce à travers les feuilles, les flocons de fleurs de peuplier qui vagabondent dans l'air, ou les petites gouttes de pluie qui se réduisent en petites boules dans la poussière. Des choses de la paix qui ne cherchent pas à signifier autre chose qu'elles-mêmes, et qui abandonne l'histoire du bestiaire humain en tant que forme atteinte. Dit autrement, qui transmettent un être en paix, ein Sein im Frieden, ainsi qu'il est écrit dans la leçon de Sainte Victoire, die Lehre der Sainte Victoire. En tant qu'image, ces choses de la paix sont aussi, dans l'œuvre de Handke, un catalyseur de la possibilité de l'écriture, de la possibilité de la littérature. La littérature attentive aux détails pacifiants de Handke trouve dans la nuit morave, die moravische Nacht de 2008, une image marquante dans le signe de la main d'un petit villageois, membre d'un groupe qui a chassé l'autre groupe ethnique du village pendant la dernière guerre. Depuis l'assemblée des vainqueurs, l'enfant salue une femme dans un quart de vaincu, revenue pour la première fois avec d'autres expulsés dans son ancien village à l'occasion d'une brève visite aux morts. Lorsque la femme se met soudainement à faire un signe de la main au moment où le quart démarre, l'enfant lui répond. Citons en détail ce passage. Was ist das freilich für ein Winken? Das Kind aus dem anderen, dem Feindvolk, reagiert nicht sofort und dann zunächst nur mit den Augen. Es weiß sich nicht zu fassen. Es schämt sich. Es ist ihm peinlich. Es wird rot. Es möchte wegschauen. Es möchte überhaupt weg. Und es möchte ganz und gar nicht weg. Es möchte der Winkerin im Bus eine Kusshand zuwerfen, wie alle die anderen. Es möchte ihr die Zunge herausstrecken, eine Zunge so lang, dass sich dabei sein ganzes Gesicht verzerrt. Für eine zitternde Sekunde ist das nicht bloß möglich, sondern steht unmittelbar bevor. Wie aber auch das gerade Gegenteil nicht bloß möglich ist, sonst würde diese Sekunde ja nicht zittern. Und es, das Kind, dort jenseits der Trennlinie mit, am ganzen Leib. Ohne dass sein Zittern allerdings nach außen dringt und irgendeinem der Umstehenden kenntlich wird. Ein Zittern ist eines, das auf sein Inneres beschränkt bleibt und da aber umso gewaltiger umgeht, ein Tiefenbeben, bei dem eine Eruption unvermeidlich sein wird. Gleich wird sie geschehen. Und jetzt geschieht sie auch. Und diese Eruption, sie ist sein Zurückwinken, in dem so gar nichts Gewaltiges sichtbar wird. Fast unsichtbar winkt das fremde Kind, auch ganz und gar unscheinbar, nein, das ist nicht das Wort. Vielmehr zage. Ja, das ist das Wort. Es hebt zum Winken, anders als die Frau im Bus, nicht den Arm. Es lässt diesen hängen, unten am Leib. Bis an die Knie hängt ihm der Arm, wie üblich bei einem Kind. Und das endliche Antwortwinken hat den Anschein eines bloßen Fingerzuckens, eines kurzen, einmaligen, eines bloßen Reflexes, wie bei dem Test Hammer aufs Knie. Knie, das dann leicht wegschnellt. Malgré les apparences, il s'agit pourtant bel et bien d'un salut. Car le mouvement infime du petit doigt qui remue est trop lent, trop réfléchi pour émaner d'un simple réflexe. Le mouvement est qualifié de minuscule, à la dérobée, klein klein, verhohlen. Il est une courbure presque imperceptible des doigts qui vient pourtant du corps tout entier. Ein kaum wahrnehmbares Sichrunden der Finger, das aber aus dem ganzen Körper kommt. La littérature de Handke essaie de fixer ces détails minuscules presque en deçà du seuil de la perception et accorde une place importante à ces scènes à la dérobée. Pour le formuler avec les mots de Sigrid Weigel, l'attention accordée aux détails, je cite, élargit le champ visuel comme dans un grossissement photographique et place au centre de l'attention ce à quoi l'on n'accorde généralement aucune valeur. En quelque sorte, la littérature de Handke imite le procédé photographique et se sert d'une perception que la photographie a contribué à modifier en rendant visible ce qui ne l'est pas, ou à peine, et en l'agrandissant. L'autre savoir des images photographiques, décrit entre autres par Walter Benjamin, reposant sur sa possibilité de réaliser des agrandissements, est ici mis à profit pour la littérature de la paix. L'existence de ces détails grossis à la loupe, grosse gemacht, est toutefois constamment menacée, ce qui m'amène à leur temporalité, à leur fugacité. Car les détails apaisants sont eux aussi happés par le problème fondamental, intrinsèque à la littérature de Handke, de l'absence de durée. Tout comme le chemin. Pourtant là, je cite, « seule chose durable pour Handke ». Précisément un chemin menant à la Sainte Victoire qui a disparu dans les flammes d'un incendie de forêt, ainsi que le raconte l'épopée de la disparition des chemins, une autre leçon de la Sainte Victoire, Epopee vom Verschwinden der Wege, oder eine andere Lehre der Sainte Victoire de 1995, où tout comme les fêtes censées célébrer des réconciliations définitives, für ewig gemeinte Versöhnungsfeiern, dans la perte de l'image, der Bildverlust de 2002, qui était tout au plus officiel et ne dure qu'un temps, très bref, eine bloße Zeit lang, nicht auf die lange Dauer. Also das sind die Titel, nicht auf die lange Dauer. Saluer, tirer la langue, souffler un baiser ou jeter des pierres. La ligne entre guerre et paix est ténue chez Handke, toute situation pouvant brutalement basculer de l'un ou de l'autre côté. Les protagonistes doivent fournir un effort considérable pour s'opposer à la guerre et franchir le seuil de la paix, pour faire un signe de paix, aussi petit soit-il, à peine perceptible, plutôt que de jeter des pierres. Dans la nuit morave, le quart des expulsés, malgré l'improbable signe de paix, malgré les véhicules qui l'escortent et la cible de plus en plus de jets de pierres au fil de son trajet. Chaque détail pacifiant est exposé au danger permanent de verser dans son contraire, dans une image, un lieu de violence, d'extermination, de guerre, d'être exterminé par la guerre ou d'être amputé de son effet pacifiant. Dans la littérature de Handke, le tintement des cloches, par exemple, peut basculer dans une escadre de chasse de nuit. Les entrebâillements ovales et sombres de chaussures peuvent se transformer en bouches hurlant à l'agonie. Les fontaines ruisselantes se muer en barricades. Les pommes en grenade. Des rangs de vignes dénudées en croix de cimetière. Le battement d'ailes de la colombe en pétarade des mitraillettes, des champs de tournesol noirs de novembre en cimetière de la guerre mondiale, un tas de bois en abri militaire, des lichens jaunes sur des rochers en peinture de camouflage jaune sur des chars, une piste de branchage en tranchée. Même le plus bleu des ciels est toujours assombri par des escadres de bombardiers, toute image céleste suivie de l'enfer. Et même le récit d'une journée réussie, je cite, peut à tout instant tourner en histoire de meurtre et d'homicide, de tuerie, de dévastation, de ravage. Wird in jedem Moment umschlagen können in eine Geschichte von Mord und Totschlag, von Amoklauf, Verwüstung, Verheerung. Ainsi, dans l'essai sur la journée réussie, Versuch über den geglückten Tag, le balancement des boules de platane, le bruissement de la frondaison fanée d'un chêne, l'éclat clair-obscur du tournoiement des hirondelles dans un ciel d'été, ou la brosse à chaussures sur l'escalier en bois ou coucher de soleil, ont tant de choses de la paix et de détails d'une journée réussie, seront cassés peu après par, je cite, la guerre qui approche, le grondement toujours plus dense des bombardiers décollant de l'aéroport militaire de Villacoublay, mettant un terme abrupt à l'essai sur la journée réussie. Dans « Toujours la tempête, immer noch Sturm » de 2010, Grégoire déclare que le 8 mai 1945 a été le plus beau jour de sa vie. Il s'extasie sur le bleu du ciel sans bombardier, le vert des prairies sans fugitif ni poursuivant, le marron des forêts sans éclair de balles ni éclat d'écorce, le tambourinement des ruisseaux sur les pierres à l'opposé d'un tambour de guerre, das Trommeln der Bäche an den Bachstein als das Gegenteil zu einem Kriegstrommeln, le scintillement de mica, glimmer flimmern, au fond des ruisseaux et sur les abris dans les champs qui ne sont rien d'autre que des abris dans les champs. Le 8 mai 1945, une distinction claire entre les choses de la paix et de la guerre semble possible pour une première et unique fois, sans crainte de basculement. Mais le neveu de Grégoire ne laisse pas durer cet état de grâce. Il dit, je cite, « Cela a duré à peine 2 semaines. Vous avez seulement respiré durant 10 jours d'air matinal de mai. Ne plus voir de sang, mais vivre la paix. » Ensuite, la bonne paix a viré en une mauvaise. 10 jours de rang, la paix chaude, toute chaude, et ensuite la guerre froide, très froide, qui persiste. Les grands, comme dit le prophète de Porchefontaine, qui se transforme en poète épique dans mon année dans la baie de personne, sont certes ceux qui rendent la paix passionnante et non la guerre. Pourtant, Walter Benjamin pense que la grande prose de tous les annonciateurs de paix parlait de guerre. Handke aussi. À certains passages de son œuvre, on ne peut même plus distinguer clairement entre guerre et paix. Non seulement la guerre peut se transformer d'un coup en paix et inversement, mais guerre peut signifier paix et paix, guerre. Dans La perte de l'image, par exemple, l'auteur fictif écrit « Nach einer Epoche eines nicht faulen, sondern kerngesunden, kräftigen und zuversichtlichen Friedens, da viele von uns sich ihrer Zeit, unserer Zeit, der Jetztzeit gefreut hatten, herrschte wieder das Dunkle einer Vorkriegszeit. Es war das aber ein Vorkrieg, wie es ihn vielleicht noch nie zuvor gegeben hatte. Der Frieden bestimmte weiter das Bild, allgegenwärtig das Wort Frieden. Und zugleich war schon der Krieg im Gang. Nach einer Periode, da wir, zumindest auf unserem Kontinent, uns endlich und endgültig davon erlöst geglaubt hatten, brachen in Europa die Erbfeindschaften durch, sämtliche, und zwar nackt. Il n'existait plus entre les peuples que les souvenirs les plus noirs, et on eût dit que ces souvenirs tenaient lieu des présents. Mais d'où pouvaient bien provenir ces réminiscences, se demande l'auteur fictif, alors que tous ces gens, depuis la plus tendre enfance, avaient étudié l'histoire dans des manuels où l'on avait pris grand soin de supprimer tous les éléments, tant soit peu hostiles à l'égard de tel ou tel autre pays. Cette question presque prophétique reste, bien entendu, sans réponse. Les guerres, écrit encore l'auteur de La perte de l'image, n'avaient pas encore éclaté, peut-être n'éclateraient-elles jamais explicitement. Peut-être ne serait-elle jamais déclarée, peut-être ne s'appellerait-elle pas guerre, mais par exemple opération de paix ou dictat amoureux. La paix ici n'est qu'un mot, de propagande sous lequel démarre secrètement la troisième guerre mondiale qui, tout autour de nous, comme le dit le mineur de la Saline dans Kali, une histoire d'avant-hiver, Kali, eine Vorwintergeschichte, fait rage depuis longtemps, non déclarée. Peu visible, mais d'autant plus maléfique. L'indiscernabilité entre guerre et paix va si loin dans l'œuvre littéraire de Handke que langue et écriture se contredisent. Dans Kali, un vendeur de journaux, agitant un exemplaire du journal du matin, proclame, je cite, « La paix éternelle est déclarée », tandis que la une annonce le contraire, l'horreur. Un autre crieur nocturne le suit. Moment historique, premier jour de l'humanité sans mort, retour au paradis. Alors que les gros titres qu'il brandit annoncent aussi l'exact contraire. Il semblerait que la guerre règne partout dans les univers narratifs de Handke, que la paix n'y est que ponctuelle, ne peut être instaurée que pour des brefs instants. L'épopée de la paix, dans laquelle la paix et non la guerre est passionnante, doit par conséquent rester un idéal. Il ne peut exister que des pacifications temporaires, locales, des courtes pauses. C'est pour cela que Nova, l'annonceuse de la paix éternelle dont parlent les villages über die Dörfer, sait que les, je cite, « cris de l'horreur se perpétuent éternellement ». En effet, le malheur et le deuil ne sont pas dissociables des mots pour lesquels Handke avait déjà trouvé l'image du cadre noir, dans « Der Rand der Wörter 2 »,« Le bord ou la marge des mots 2, 68 ». Je cite « Wo der Rand der Wörter sein sollte, fängt trockenes Laub an den Rändern zu brennen an. Und die Wörter krümmen sich unendlich langsam in sich selber, diese Trauerränder, dieser Rand der Trauer. Néanmoins, si la pensée d'une paix éternelle sur terre semble impossible, certains protagonistes ne peuvent pourtant pas l'abandonner, tel Pablo, le penseur de justice dans Préparatif d'immortalité, Zurüstung für die Unsterblichkeit. Ainsi déclare-t-il: Ich glaube an den Frieden. Ja, es ist ein Glaube. Die Schlachtenorte sollen ihren Klang verlieren, selbst die Thermopylen und Kafar Salama. Klingend werden sollen allein die Orte des Friedens. Der Tag von Oropesa, der Vorfrühling von Klein-Venedig, der Nachtwind von Santander. Einmal soll einer durchdringen zu dem abenteuerlichen Frieden im Muster einer Baumrinde, im nassen Asphalt an einem Sonntagabend und den gesamten anderen dieses Stück Welt in das Gesicht reiben. Und großer Friede wird sein bis zu den letzten Monden. Frictionner la paix sur le visage ou sur les yeux de toutes les autres à l'aide de détails apaisants grossis à la loupe, et ce, par la lecture. Ce pourrait être le véritable programme apaisant de Handke, qui mise tout sur la littérature. Car la littérature sait rallonger la durée. Dans un livre, la fugacité des choses de la paix est momentanément conjurée par l'écriture. La durée de l'écriture, comme on a déjà entendu de Judith Safartilante ou de Laure Knapp, et il me semble plus avancé qu'ici. Pas de durée. Pas de durée. Allez, il faut que le livre avance. Herr mit dem Buch. Il faut se soucier de la durée. Man muss für Dauer sorgen, comme le savait déjà la protagoniste de la perte de l'image. Les détails apaisants, éphémères et menacés de basculer, sont fixés dans l'écriture. L'écriture peut garantir la pérennité des détails apaisants quand ils relèvent déjà du passé. Certes, il n'est plus possible d'annuler leur perte dans l'espace scriptural, mais l'écriture peut simuler la durée de la paix. La durée de l'écriture enregistre les formes pacifiantes aussi longtemps qu'elle, la littérature, dure. Et c'est la fin. Chez Handke, la littérature dans laquelle s'inscrivent les détails apaisants, sauvegardés à plus long terme, la littérature qui tente de formuler la réconciliation à l'aide d'une courbure presque imperceptible des doigts, dans le but de briser le cercle de la violence et de la contre-violence, cette littérature renvoie à la fois à quelque chose d'existant et d'improbable, à la guerre permanente sous une paix superficielle et à une éventuelle vraie paix que surmonte la guerre. Merci. Ja.